expliquant voilà, ce que vivent les villageois. Et je pense que c'est un petit peu ça qui va faire qu'il rentre dans l'équipe, parce qu'auparavant, on a vu que le chef avait une technique pour recruter les samouraïs un petit peu seulement sur les capacités militaires. C'est-à-dire qu'il va les inviter dans sa cabane et il va y avoir l'apprenti qui va essayer de leur tendre un piège en donnant un coup de bâton. Mais c'est intéressant parce qu'au début, ils sont recrutés seulement pour des qualités vraiment physiques. Et lui, il va rentrer à la fois encore par la ruse, là plutôt en se livrant, quoi, plutôt pour ses qualités de cœur, quoi, parce que c'est un peu lui qui va être
de cœur et de forceur.
Oui, mais il a un côté
où. Près de rouille et de.
En fait, c'est le gamin qui arrive.
De cœur et de forceur.
Je peux jouer avec vous ? Non, dégage. Après, il les suit partout.
Et j'ai du poisson.
Mais au final,
c'est. À un moment donné, il va chercher le ballon, du coup, ouais, vas-y, tu peux jouer avec nous.
C'est lui auquel on s'identifie le plus.
T'avais pas d'amis, Maxime ?
Non, mais moi, j'étais pas.
Tu voulais pas jouer au ballon ?
T'étais choisi en dernier dans l'équipe.
Oui, ça, c'est vrai.
Moi aussi.
Non, mais parce
moi, j'étais le ballon.
Moi, j'étais l'arbitre, alors qu'il n'y avait pas besoin d'arbitre.
Et Mélissa, bref. Non. Mélissa,
c'est elle qui t'a équipé.
Mélissa, c'était la capitaine de l'équipe, c'est elle qui.
La chef.
C'était la boulie du collège.
Je tirais à l'arc à cheval, moi. Ah, je jouais pas au ballon.
Bref, pour revenir sur les slips, quand même, oui. Si on veut faire un point fashion, je trouve que tout ce qui est reconstitution historique et notamment sur
les slips,
c'est hyper fidèle.
La naissance du slip.
Non, sur les vêtements de façon globale, on a des plans sur les kimonos, les robes. Alors j'ai regardé, ça s'appelle les katabira, les robes pour hommes.
Ah, ce sont pas des kimonos.
Ouais, voilà. Dans tous les plans en intérieur, justement, quand ils boivent du saké ou du thé, parfois aussi, je crois.
Ça
quand
arrive,
même,
hein. Peut-être. Un peu d'eau chaude.
Il y a quelques plans où il y a un petit peu de vapeur. Donc, déjà, c'est très joli et c'est hyper bien filmé. Et il y a aussi, je pense, que ce film est à l'origine de cette nouvelle mode du chignon pour homme.
Ah oui, alors je voulais faire un point coupe de cheveux.
Voilà.
Parce qu'il y a chignon pour homme, mais il n'y a pas que ça.
Il n'y a pas que.
Il y a le haut du crâne totalement rasé.
Oui. Ah oui.
Bah c'est, justement, je me suis posé la question. Est-ce que c'est une reconnaissance sociale de se coiffer de cette manière pour les catégories ?
J'ai la réponse.
J'en étais sûre que tu allais
répondre. C'est deux choses, parce que forcément, j'y ai pensé, j'ai fait des recherches. C'est deux choses. Premièrement, c'était une coupe idéale pour porter des casques de samouraï. Mm. Parce que j'imagine que sur le dessus, il y avait une sorte de, comment dire, de coussin qui faisait que bah, si on est sur un crâne rasé, il tient plus facilement.
Vous savez, sur la mousse.
C'est les casques en forme, je veux dire, de scarabée, en fait, qui, avec des sortes d'oreilles et des cornes. Donc à la base, c'était pour ça. Forcément, avec le temps, c'est devenu aussi un signe de mode. Et c'est pour ça que les villageois ont cette coupe de cheveux, hein. C'est pas du tout des soldats.
Donc, voilà. Après voilà, avec des cheveux à pic blond décoloré, ça aurait pas été beaucoup plus stylé au final.
Alors, c'est sûr. Moi je me suis posé une question, je sais pas si c'est le noir et blanc qui fait ça, est-ce que vous pensez qu'ils ont tous eu les cheveux rasés ? J'ai l'impression qu'il y en a certains, ils ont une sorte de cagoule.
Je crois que c'est des... Ouais, des
ils sont passés chez Carnaval. Ils se sont achetés une perruque, mais juste pour le bas de la tête.
Ouais, les villageois, il y en a, ça, t'as l'impression qu'il y a un truc en plastique. Ouais.
Moi, je me dis, ils auraient dû faire ça aussi avec les chevaux, quoi. Tu sais, tu leur enlèves leur petit
toupie, tu leur mets une petite calvitie, là.
Ah, vas-y, je vais faire ça sur mon chat pour galérer.
Oh non.
D'ailleurs, à la fin de l'émission, on va faire un live vidéo.
Pour vous imaginer, c'est vraiment rasé, mais vraiment rasé de près, quoi. Donc sur le haut du crâne.
Comme un moine, hein, au final.
Comme un moine. Oui. Et on laisse sur les côtés.
C'est ça. Et par contre, on a quand même des cheveux longs derrière, hein, qui font.
Pour le chignon.
Pour le chignon.
Moi, il y a un truc sur lequel je voulais revenir, c'était sur la perception du temps en tant que spectateur. Alors, c'est un film long, il dure combien de temps déjà ?
3h15.
3h15 avec un entracte. T'as un truc à dire là-dessus ?
Oui, bah en fait, moi j'ai regardé le film en faisant du vélo d'appartement et je suis arrivé à l'entracte et je me suis dit, c'est bizarre parce que c'est juste un panneau avec un kanji japonais. Je me suis dit, mince, mon fichier de téléchargement a complètement foiré. Et j'ai eu le temps de prendre mon téléphone, de prendre Google Traduction, de mettre sur l'écran. Et en fait, c'était écrit... alors, la traduction, c'était cassure. Et je me suis dit, ah, ça doit être le break, ça veut dire c'est l'entracte. J'avais oublié qu'il y avait des entr'actes au cinéma.
Non, ouais. Je pense qu'il voulait juste t'insulter.
Espèce de cassure.
L'entr'acte est bienvenu quand même, parce que c'est la perception du temps, elle est... Enfin, moi, je l'ai perçue de façon assez longue, même si j'ai apprécié les plans et tout ça. Mais c'est vrai que les scènes de bataille sont très très longues, mais... C'est parce que moi, par exemple, les films d'action, ça m'ennuie. Et on a aussi toute cette première partie où on a la vie quotidienne du village qui peut être très, très étendue. Et en fait, c'est un choix du réalisateur d'étendre tout ce temps pour avoir une perception d'interminable, quoi. Ça marche bien, hein ?
Ils sont tous dans l'attente parce que les paysans travaillent de façon répétitive. Les samouraïs aussi sont un peu, quand ils n'ont pas de mission, ils sont un peu là à attendre.
On perçoit bien justement ce que peuvent ressentir les personnages dans ce temps très étendu, quoi.
C'est ça.
C'est plutôt intelligent d'avoir fait ça, je trouve. Et par contre, avec justement ce choix de réalisation, c'est le film qui a coûté le plus cher dans l'histoire du cinéma japonais.
Il tourne en extérieur et tout.
Il tourne en extérieur et en plus, Kurosawa a mis aussi au point une technique qui n'était pas habituelle à l'époque, c'est qu'il tournait avec 3 caméras pour pouvoir avoir toutes les actions. Donc ça coûtait un petit peu cher en pellicule et en fait, la société de production, donc c'est la société principale de production du Japon, notamment à l'époque, c'est la Toho, ils ont risqué la faillite à cause de ce film en fait.
Ouais.
C'est fou alors que c'est devenu un symbole du cinéma...
Absolument. Ils ont quand même bien fait de le faire.
Ah, c'est un joli pari, quoi.
Ouais,
c'est long, mais en même temps, oui, tu ressens la longueur, et moi, je me suis pas ennuyé. Et je l'ai regardé en x1.
Waouh!
Oui, vraiment.
Voilà. Bravo!
Je crois.
En temps réel, finalement. Je l'ai
c'est
vu
donc
en...
ça.
La vie en x1, c'est ton futur spectacle.
La vie en x1.
Je sais pas si vous avez remarqué, mais.
Mais dans la vraie vie, on peut pas accélérer les gens qui nous emmerdent.
Imagine, tu pourrais muter des gens. Je te mute.
C'est incroyable. Génial.
Non, et en fait, il y a quand même 3 phases assez distinctes dans le film. Il y a le début. Au début, donc, en fait, ils sont au village et ils partent recruter les samouraïs, quoi.
Après, il y a le milieu, non ?
Ensuite,
la préparation.
Il y a le milieu, Géraldine, avec la prep, ce qu'on appelle la prep.
Exact.
Entraînement, voilà. Et puis, bah, la fight. Voilà.
La fight.
Et
l'épilogue.
Foutez de ma gueule, mais tout ça pour dire que ça passe bien, moi,
j'ai
trouvé.
C'est long, mais c'est clair.
C'est long, mais c'est voulu et utile.
Oui.
Je pense que ce même rythme dans une chaumière normande pendant 3 heures m'aurait peut-être saoulé. Mais le fait que ce soit le Japon médiéval, oui. Je pense qu'il y a un côté plaisant à être immergé dans cet univers-là, qui paraîtrait plus long dans quelque chose qu'on connaît déjà. Quoi.
D'ailleurs, c'est fou qu'il n'y ait pas eu plus de remakes adaptés à d'autres styles, parce qu'un film de guerre de Seconde Guerre mondiale, ça fonctionnait très bien. Mm. Bah, y a un peu ça à la fin du Soldat Ryan, mais on peut très bien imaginer cette histoire-là sur un petit village normand pendant le débarquement, où il y a des soldats américains qui doivent protéger...
On t'attend, Maxime.
Allez, c'est parti.
Ouais, bah je vais appeler Steven Spielberg qui est spécialiste.
Spielberg.
Je voulais juste rajouter à propos de Kurosawa, c'est un petit malin. En fait, vu que justement Lato était un peu dans la merde à cause de son film, plein de fois ils l'ont menacé d'arrêter le tournage et tout ça. Et il a réussi à les convaincre au fur et à mesure du film de reprendre les tournages. Enfin, il y a eu beaucoup de rebondissements à propos de ça. Et il a prévu dans son planning de tournage, intentionnellement, de tourner les scènes indispensables au film à la fin.
Ah, le malin d'habitude, il y en a, ils font l'inverse.
Bah ouais.
Il s'est fait avouer.
Il les a bien lus.
Ouais.
Genre les introductions des personnages. Ah bah c'est dommage. Hein,
on les a pas, donc on est obligé de continuer au final.
Ah le petit malin.
Et en plus, donc, dans ce que j'ai lu, c'était un village qui a aussi entièrement été reconstitué. Donc,
ah ouais.
Au niveau budget aussi, ça coûte pas mal. Ça a coûté plus de 100 millions de yens, ce qui équivaut à 500 000 dollars. Donc,
ah oui, pour l'époque.
Pour l'époque, c'était pas mal. Et ça a été seulement dépassé comme budget par Kurosawa lui-même, mais en 80, pour un autre film.
Ça, c'est sa fierté.
Pour battre ses propres records.
Il a quand même été pas mal décoré, on va dire. Il a eu pas mal de prix tout au long de sa vie, notamment au Japon. Et au Japon, alors j'ai appris qu'en fait, il y a des prix pour le mérite culturel. Donc, il a eu le prix de mérite culturel. Donc, en 1976 et en 1998. Il l'a eu deux fois, donc c'est quand même pas mal. Et le prix d'honneur de la nation. Voilà, pour avoir ému le Japon avec ses nombreux chefs-d'œuvre. Et bien
bravo,
sûr,
monsieur.
Il a eu tout au long de sa vie plusieurs décorations, notamment à la Mostra de Venise, à Cannes, aux Oscars. Et il a eu l'Oscar d'honneur en 90.
Pas mal. Tout bon film, il a été remaké par les Américains, je le répète encore une fois. Qui peut nous faire un petit résumé de ce remake ?
Bah, vu que tous les regards sont sur moi, je crois que c'est à moi. Non mais je vais pas vous raconter en détail, je vais vous dire un petit peu les différences parce que la structure est similaire. Cette fois-ci, donc, c'est un film réalisé en 1960, donc seulement 6 ans après l'original, qui s'appelle Les Sept Mercenaires en français, mais en version originale, c'est The Magnificent Seven, mm-hmm. Et bien entendu inspiré du film Les Sept Samouraïs, hein,
en couleur.
Et réalisé par John Struges, en couleur, en effet. Et c'est un western. De quoi ça parle ? Ça parle donc d'un petit village mexicain. On imagine à la frontière mexico-américaine hein, de l'époque qui était encore pas la même que maintenant. Donc le petit village qui va être pillé par un hors-la-loi qui s'appelle Calvera. Comme dans le film original, les villageois vont aller chercher des mercenaires pour protéger leur village. Ils vont vite tomber sur Chris, qui est joué par Yul Brynner, qui est donc le chauve le plus classe de l'univers.
C'est pas Gaston Bide.
C'est pas Franck Gaston Bide, c'est Enflure. On a le droit de le dire maintenant. Avant, on le détestait pour des raisons totalement gratuites. Maintenant, nous savons que c'est une personne horrible.
Plus aucun scrupule.
Coucou à toi.
Donc Chris va être recruté, notamment suite à une petite scène où avec un autre personnage qui s'appelle Vin, joué par Steve McQueen, ils vont prendre une calèche pour accompagner un cercueil vers le cimetière, parce qu'apparemment c'est un village tellement malfamé que même les corps ne peuvent plus arriver au cimetière sans être escortés.
Je crois que c'est parce que c'est un Indien et que la populace du village ne veut pas qu'il soit enterré sur les terres.
Ah, et ben voilà, j'ai pas cette information. Donc voilà, deux personnages vont être recrutés, et ensuite il va y avoir une petite séance de recrutement d'autres personnages. On va donc avoir Bernardo, Charles Bronson, qui coupe du bois de façon très virile.
Je pense qu'il a inspiré Charlene Gals, d'ailleurs.
C'est possible. Qui apparemment a vraiment besoin d'argent, parce qu'on apprend qu'il prend très cher, et finalement pour... quelques poignées de dollars, il va accepter l'offre.
C'est bien, tu cales des noms de films de western.
J'en avais pas dit. Ouais. Nous avons Lee, qui est un ancien soldat hanté par son passé. Je n'ai aucun souvenir de qui est cette personne. Nous avons Britt, un expert du couteau. Harry. Et enfin, Chico. Ils vont aller dans ce village. L'avantage dans ce village, c'est qu'il y a une église avec un clocher. Donc, ils vont pouvoir avoir une sorte de vue d'ensemble. Et là, c'est les mêmes choses. Il va y avoir des petits allers-retours. Ils vont essayer de négocier avec Calvera. Finalement, il va y avoir une attaque. Et puis, il va y avoir des gens qui crèvent. À la fin, seuls Chris, Vin et Chico survivent. Et fin.
Bravo.
Bravo, pas
voilà.
Mal.
Je vous avoue que j'avais plus trop de souvenirs de la deuxième partie de ce film quand j'ai dû faire le résumé.
Je peux citer la seule différence dont je me souviens.
Oui, ils sont pas japonais.
Ils s'habillent pas pareil.
C'est en couleur.
Non, non. Alors déjà, il y a des personnages qui sont un peu fusionnés par rapport aux japonais. Donc, il y a des traits de caractère qu'on retrouve chez un personnage qui sont en fait le mix de deux personnages de l'original. Quoi qu'il en soit, ce que je nommerais comme un mix entre le fou et le disciple, celui-ci, au lieu de continuer l'aventure avec ses compagnons masculins, décide de rester avec la fille au village. Une des différences.
Oui, à la fin.
À la fin.
À la toute fin, oui.
Alors moi, ça m'a fait cet effet-là. Dès le tout début du générique, vraiment seconde 1, j'ai tout de suite pensé à un autre film, vraiment une perle du cinéma. Vous l'avez, bien sûr.
Le bon, la brute et le truand.
Rasta Rocket. Instant rocket, bien
attends,
sûr.
Parce j'ai plus le souvenir du début.
Ben, parce qu'en fait, au tout début du générique.
Il y a du reggae.
Non. Imagine. Sur un décor de western.
I shot the sheriff.
Non, non. Et non, parce qu'en fait, il y a le nom de Yul Brynner qui apparaît sur l'écran dès le début du générique. Et je sais pas pourquoi. Moi, quand j'ai vu Rasta Rocket il y a 150 ans, quand j'étais jeune, bah en fait, il y a un des personnages dans Rasta Rocket qui s'appelle Yul Brynner.
Ah ouais.
Je vous rappelle ça, et qui est chauve également.
C'est le personnage qui s'appelle comme ça ou l'acteur ?
Le personnage.
Ah, du coup, c'est clairement un.
Ouais, c'est un clin d'œil. Et il y a cette réplique dans le film. Alors, Yul Brynner dans Rasta Rocket, il veut gagner les JO, il veut gagner de l'argent, partir de Jamaïque et se payer un château. Il a un pote qui lui dit : tu l'auras, ton château, Yul Brynner. Voilà.
Et donc, ouais, toi, donc, t'as eu un flashback.
Moi, j'ai cette phrase qui me hante depuis quasiment 30 ans. Alors, Yul Brynner.
Oui.
Personnage atypique. Parce que du coup, je me suis renseigné sur finalement cette star de mon enfance. Parce que moi, j'avais des posters dans ma chambre.
Mais il était
noir. Il y avait
noir,
lui
quoi.
Et Monsieur Propre. C'était mes modèles.
Il ressemble à mon père. Donc,
ouais. Alors, Yul Brynner. Ouais. Oui. Et alors, qui était du coup le chauve le plus connu du monde, quoi, en quelque sorte. Enfin, qui était...
Avant Gaston Bide.
Avant Gaston Bide, il y avait Yul Brynner.
Avant Jean-Pierre Coff.
Et avant Jean-Pierre Coff. Ils sont tous inspirés de lui. Mmh. Sachant que Yul Brynner n'était... Oui. Yul Brynner n'était pas du tout chauve.
Et ça, il se rasait exprès.
Tu veux dire, il avait des cheveux en moment.
Exactement.
C'est pour se donner un style un peu intense.
En fait, ouais, il a joué Le Roi et moi. Sur scène, également à Broadway et tout, qu'il a un petit peu fait découvrir. Il l'a joué 4625 fois sur scène, le rôle dans lequel il avait le crâne rasé. Ensuite, il a décidé de garder ce style-là parce que ça le démarquait aussi, puis ouais. Ça lui allait bien.
On voit que c'est pas une prothèse, lui.
Non, mais ça lui va bien.
Et donc, n'avez-vous pas déjà entendu cette expression ? Une coupe à la Yul Brynner. Bah. Tout le monde sait ça, surtout en 2025. Moi, j'entendais encore des collégiens hier. Ouais, l'autre, la coupe à la Yul Brynner. Donc, ça vient de là, cette expression. Il a également été mannequin, réalisateur. Il a fait plein de choses.
Et mannequin crâne.
Mannequin de tout, je crois. C'est lui, la double crâne dans la pub de Monsieur Propre. Non. Il a été acrobate, le savais-tu, Mélissa ?
Oui, oui, j'avais dit la question. Acrobatie ou
et oui.
Cascade. Mais...
Et il a fait du cirque. Il a fait une chute de trapèze. Et ensuite, il a arrêté parce qu'il s'est fait 40 fractures.
Comme la mère du commissaire Bialès.
Je viens d'avoir l'image avec les mains qui lâchent le trapèze.
Est-ce qu'il est mort coincé la tête dans une grille d'arbre ou pas ?
Ça,
j'aimerais vraiment bien lire un livre sur lui. Parce
les parents de Robin.
Je sais pas combien de langues. T'as l'impression qu'il a vécu 50
ouais,
vies.
Ouais, non, mais sincèrement, il y a beaucoup de mystères autour de sa vie. Et il a entretenu le mystère. Personne ne sait vraiment quand
d'où
est-ce
vient,
qu'il est né.
Ouais. 11 langues.
11
ans. C'est un mytho.
Non, issu d'une famille aisée. Hein. Pour un an, très cultivé, ça, qui a fait des études, je sais pas quoi, bref.
Si je peux me permettre, bon, 11 langues, j'y crois pas trop. Ça me rappelle mon grand-père, qui était pas vraiment un mytho, mais un peu. Parce que mon grand-père était pas du tout d'une famille aisée. Il a grandi dans un autre pays où il était cocher. Et toute sa vie, il nous disait qu'il parlait plein de langues, alors qu'en réalité, il savait dire bonjour et au revoir dans plusieurs langues.
Ouais. Donc et quand si t'es connu, c'est plus dur
qui parle
de cacher ça.
Ça,
quoi.
Mais c'est comme nous, hein, on parle japonais.
Bah, ouais. Ah bah moi, dans ce cas-là, je parle japonais. Ouais.
Vous l'avez remarqué tout à l'heure, quoi.
Je trouve qu'il en fait presque trop, moi. Apparemment, photographe, musicien, chanteur, auteur, t'es là. Bon.
Il a tout fait.
C'est un peu Serge le mytho
le
avant,
mec,
quoi.
C'est Guillaume Canet, quoi. Et il fait du cheval, en plus.
Mais lui, il est bon. Alors, tu fais bien de parler de rêve qu'on comprend adulte. Moi, j'ai compris une expression anglaise avec ce film. Parce qu'au moment où le personnage de Yul Brynner et Steve McQueen vont dans la calèche pour accompagner le cercueil, il y a Steve McQueen qui se met à côté, qui prend un shotgun. En fait, on comprend que la plage du passager, maintenant on appelle ça shotgun. Et si vous êtes un petit peu féru de cinéma ou de série, souvent quand des gens vont dans une voiture et qu'il y a une personne qui veut être passager, il dit shotgun. Vous avez jamais vu ça ? J'ai l'impression
d'être... Et non pas Shogun.
C'est un peu genre Prams, quoi.
Enfin, et en fait, c'est ça. Ouais. Et en fait, pendant longtemps, je me suis dit, pourquoi il dit shotgun ? Et en fait, c'était apparemment la place qui était attitrée à la personne qui devait avoir un flingue pour protéger pendant les convois.
À celui qui avait le fusil.
C'est ça, donc la place du passager, en fait, devient la place du shotgun.
Ouais, mais ça se dit pour d'autres choses, shotgun, genre sur le gâteau, quoi. Tu vois. Enfin, c'est,
oui,
genre,
en fait, c'est devenu
le premier.
Non, mais moi, j'ai jamais entendu ça de ma vie.
Bah, il faut regarder les films en version
originale. Il y a pas ça
originale.
Dans Rasta.
Je suis sûr que dans Rasta Rocket, il y a
dans
ça.
Dans Rasta Rocket,
pour le mec qui est celui qui est devant dans le bobsleigh.
Shotgun.
Jesus.
Si on cherche les points communs d'acteurs, on avait parlé dans un autre épisode de True Grit.
Oui.
Et dedans, il y a l'acteur James Coburn qu'on retrouve dans Les Sept Mercenaires.
Oh, c'est le...
Ah bon ?
Déjà vu cinématique univers.
Faut pas me demander.
Attends, mais c'est qui dans Les Sept Mercenaires ?
Faut pas me demander.
Je pense que c'est un de ceux qu'on se souvient pas, c'est probablement celui qui a un peu une tenue de gentleman.
Il a un chapeau, je crois.
Voilà.
Yul Brynner, qui est apparemment très connu parce qu'il parle beaucoup de langues, dont le français. On s'est posé la question avec Mélissa, est-ce qu'il se double lui-même en français ?
Il parle je sais pas combien de langues, mais on a regardé, c'est pas lui qui se double.
C'est pas lui qui se double en français. Mmh. Et donc, j'ai digué des anecdotes pour ce film. Apparemment, c'est Yul Brynner qui a insisté pour que Steve McQueen ait le second rôle du film.
On lui enlève ses talonnettes.
Et après, ce qu'il a un peu regretté, entre guillemets, parce que c'est de notoriété publique que pendant ce film, les deux se sont détestés parce que l'ego des acteurs étant que, en fait, Yul Brynner détestait quand Steve McQueen faisait des gestes parasites dans le plan. Prends un exemple d'un plan où ils sont tous les deux à cheval en train de parler et que c'est Yul Brynner qui est en train de parler. Et Steve McQueen, il va prendre l'habitude d'enlever son chapeau, genre faire avec sa main de balayer comme s'il y avait des mouches, un petit peu pour attirer l'attention. Et apparemment, ça avait tendance à énerver au plus haut point Yul Brynner. En fait, il lui voulait la vedette, quoi.
Ça les ennuyait l'un et l'autre de ne pas être au centre de
l'attention. C'était vraiment le syndrome du personnage principal.
Le pire, c'est que Steve le savait pertinemment que ça saoulait Yul Brynner et il le faisait exprès.
C'est ça, il y a pas mal de scènes connues. Ça donne quasiment envie de revoir le film pour repérer au moment où Steve McQueen...
Quasiment.
Franchement, là, je suis à deux doigts de le relancer.
Alors, au début, il y a cette petite musique là, très sympa. Hein, la musique du générique du début, c'est un peu entre Davy Crockett et La Petite Maison dans la Prairie. C'est.
Il n'y a pas d'enfants qui tombent dans le champ, par contre.
Non, c'est vrai. Il y a des enfants qui meurent, par contre.
Hey, comme dans La Petite Maison dans la Prairie.
Moi aussi, j'ai un petit peu listé les différents intervenants, les sept mercenaires finalement.
Oui. Ils
donc
sont
il y a Chauvman, Steve McQueen, on le reconnaît facilement, donc c'est Stevie.
Ouais. Il y a le Steve McQueen.
Il y a le Trublion, comme dans l'original, donc lui je l'ai appelé le jeune.
Ouais.
Parce que c'est vraiment un jeune.
Il est tendu. Hein.
Il a besoin de prouver des trucs, il est en pleine adolescence, c'est le jeune. Il y a le mec au couteau, Couteauman. il y a Couteauman. Ensuite il y a le mec on voit pas trop là qui est toujours en costard, Lee, donc lui c'est Costarman. Il y a Harry pareil, un peu nul quoi comme perso, mais à un moment donné c'est vers la fin il veut se barrer.
Ah oui, il est trop bizarre lui.
J'ai aucun souvenir
Harry
de lui.
Le Froussard. Ah si, alors si, celui-là c'est marrant parce
que c'est un traître un peu.
Non, tu sais Harry, c'est au début, il va voir Chauvman, enfin, il tombe dessus. Alors c'est marrant parce qu'ils habitent t'as quand même Chauvman qui est là dans un village random et il rencontre un autre gars. Et puis, faut emmener des gars au cimetière. Moi, je vais le faire. Bon, bref. Moi, je vais t'accompagner. Puis, il fait, tu fais quoi dans le coin ? Oh, je me balade. Enfin, bref. Et à un moment donné, quand il doit recruter, il y a tout le monde le connaît. Et tous ses potes sont vraiment à côté, quoi. Genre, au village d'à côté.
Il a de la chance, quoi.
C'est vraiment genre, ça tombe bien, je connais six mercenaires.
Franchement, le hasard fait bien les choses.
Et donc, Harry, il tombe dessus au saloon. Il fait, Chauvman, ça va ? T'as pas un boulot ? Il faut, si, j'ai un boulot. Mais je te préviens, c'est pour des clodos, c'est mal payé, c'est Vandals. Et le mec, il fait, vas-y, Chauvman, t'es con. Ah, je suis sûr, il y a de l'or, machin. Ah ouais, il y a un truc derrière et tout. Et Chauvman, il fait, non, c'est vraiment que $20. Et du coup, Harry, il fait « Bah vas-y, et puis tu me diras à la fin, c'est quoi qu'on gagne en vrai ?»
Et oui, pendant tout le film, il pense qu'il y a un vrai trésor.
Il pense ça. Au bout d'un moment, vers la fin, c'est chaud, il y a eu des pertes et tout. Il dit « Franchement, moi, les gars, je reste pas. » Chauvemane lui dit « Harry, t'es libre. C'est vraiment... T'es un foussard, tu peux te barrer. »
Tu peux avoir mes 20 balles, par contre.
Tu peux avoir mes 20 balles, par contre. Et à la fin, il y a un petit peu la bataille finale. Harry revient et dit « Attends, Chauvemane, bouge pas, je vais t'aider !» Il arrive au galop au milieu du village. Il se fait buter comme une merde. Et puis, il est en train de clapser dans les bras de Chauvemane. Et il lui dit « Hey, Chauvemane, tu peux me le dire maintenant ? C'était quoi le vrai trésor et tout ?»
C'est l'amitié.
Putain, il est vraiment complètement con, lui. Il lui dit « Ouais, non, t'as raison. Il y avait plein d'or à la fin. T'inquiète et tout. Ah, je le savais !»
Pars tranquille.
Dernier mensonge, quoi.
Donc l'autre, il est vraiment mort pour que dalle.
Ouais.
Voilà, donc ça, c'était...
Ça a l'air de la peur.
C'était Chauvemane. Et on a aussi, donc, effectivement, Bernardo.
C'est l'assistant de Zorro.
Qui coupe du bois. Oui.
Ah, oui.
Et qui ressemble... Et finalement, il ressemble vraiment à Bernard Tapie, un peu.
Ah,
oui.
Moi, je l'ai appelé Bernardo Tapie. Bon, ça, il y a un petit côté Bernard Tapie, oui. On est d'accord.
Moi, je m'en suis souvenu comme étant celui qui est l'archétype de « je vais protéger les gosses ». C'est les gosses.
C'est l'ami des enfants.
C'est l'ami des enfants. À la fin, d'ailleurs, il crève aussi. Et il crève en disant « Protégez les gosses ». Vraiment, ouais. Lui, c'est... Il est trop fort. Alors, en parlant des gosses et des villageois, vous avez peut-être remarqué quelque chose sur tous ces villageois, c'est qu'ils sont habillés de blanc.
Blanc.
De blanc pétant.
Oui, c'est vrai.
Et en fait, je m'étais dit, c'était peut-être un message sur la pureté du villageois. Non, c'est une obligation, en fait.
C'est pour le soleil, je pense.
Non, c'est, en fait, c'est la communauté mexicaine, en fait, qui a insisté pour que tous les villageois soient habillés de blanc. Donc, je pense que c'est aussi pour montrer une sorte de pureté. C'est pas un choix du réalisateur, on lui a imposé. Ce qui était très difficile, parce qu'en fait, il fallait très souvent laver les vêtements.
Parce que la
poussière et tout. Donc, mais moi, je trouve que ça reste... Voilà, ils sont tous là, t'as l'impression qu'ils sont une sorte de veillée.
Tout ça flippant et bizarre. En plus, t'as l'impression qu'ils ont tous une position hyper déterminée à chaque scène.
Ouais.
C'est pas très naturel, je trouve.
Bah, c'est surtout aussi que, comme dans beaucoup de westerns, c'est toujours un petit peu dans des couleurs marron-orange. Ouais. Et du coup, c'est pour ça aussi que le blanc ressort pas mal, quoi.
Ouais.
Mais justement, ça change.
Et ça lui sort, merde.
Ouais, pour des paysans, oui, ça... bosser en blanc, c'est un peu risqué.
Ouais.
Oui, en fait, c'est ça, c'est pas du tout
logique.
C'est pas du tout des habits de travail, quoi.
Clairement, ils foutent rien de la journée.
Je me suis fait une petite réflexion au tout début, parce qu'on découvre très vite le méchant, Calvera. Et il est plus caractérisé que dans l'original, c'est-à-dire que dans l'original, il n'y a pas vraiment un méchant, ouais. C'est un peu une masse de brigands. Là, lui, c'est vraiment le méchant, avec sa grande moustache. Et puis, tout de suite, pour qu'on voit qu'il est méchant... Quand
c'est Robotnik.
C'est le méchant.
Où en fait, il dit aux villageois, bah, on va revenir pour tout vous prendre. Et il y a un des villageois qui dit, non, prof, il le bute. Ça y est.
Donc, c'est ce genre de film où il y a beaucoup de discours, quoi. Et hein, on va venir vous prendre les trucs et puis on vous tuera. Et c'est genre, bah ok, merci de nous prévenir.
Bah, allez-y, faites-le.
Attends, mais le villageois, il avait un bâton, je sais pas quoi.
Il
était quand même menaçant.
Ouais.
Donc,
légitime défense.
Légitime défense dans l'exercice de ses fonctions.
Il le bute vraiment gratuitement, mais au moins.
Je savais même pas qu'il y avait le retour des sept, quoi.
Oui,
ils ont fait une suite.
Ils ont fait une suite avec. Alors, pas forcément, ceux qui sont morts ne reviennent pas.
Il y a Yul.
Il y a que Yul, je crois, qui revient. Il y a eu un remake du remake. Donc, il y a eu les 7 mercenaires sortis en 2016. Je ne l'ai pas vu, je vous l'assume.
Attends, mais c'était quoi dont tu parlais avant ?
Ça, c'est une suite.
Ah, okay.
La suite du remake. Maintenant, là, c'est le remake du remake.
Okay. Je suis déçu d'avoir raté le remake du remake.
Alors, ça a l'air d'être un film plus moderne, hein, ça va de soi.
2016.
J'ai juste vu la bande-annonce, je me suis dit, c'est dégueulasse. C'est visuellement, c'est pas beau. Parce que bon, qu'on aime ou pas la version de 1960,
toujours un western, du coup.
Ça reste un beau film. Oui, yeah. Western moderne avec Denzel Washington,
je les ai sous les yeux, Chris Pratt,
voilà.
Ethan Hawke.
Ok. Et c'était un peu l'époque, je crois que True Grit, c'était 2014.
Mais alors True Grit, ça se veut un peu vrai western. Je vous laisse voir la bande-annonce, je juge que sur la bande-annonce. Mais on sent que Tarantino est passé par là, quoi. C'est-à-dire que ça se veut dynamique. Chaque personnage a vraiment un nom et une fonction. C'est plus identifié. Après, je ne vais pas donner d'avis sur un film que je n'ai pas vu, mais je n'ai pas eu envie de le voir, en tout cas.
Ok.
Contactez-nous si vous l'avez vu. Je pense qu'on a fait le tour.
Chose à dire.
Bernard Tapie, à la fin,
oui.
Il meurt comme une merde.
Comme dans la vraie vie.
À cause des gamins.
Exactement, ces fameux gamins.
Qui le suivent tout le temps.
Ils le rejoignent et tout. Et lui fait, non mais les enfants, en fait je suis en pleine bataille là, ouais. C'est dangereux. Donc retournez, regardez trop.
C'est pas
qu'il leur dit.
Prenez
c'est
votre
pas des boulettes de papier.
Là, c'est vraiment juste un vrai âne dans les champs.
Ouais, ça,
ils font,
et en fait là ils font, non mais en gros on est tombé sur toi, on a plus ou moins tiré à la courte paille, on est tombé sur toi. Genre c'est avec toi du coup qu'on est. Et les gamins ils disent un truc super vexant. Ah ouais, genre si tu meurs comme ça, c'est nous qui allons t'enterrer. Et après ils font genre, mais si tu meurs pas, c'est pas grave hein. Tu vois,
on va t'enterrer quand même.
Les enfants sont merveilleux.
Et Bernard Tapie il a un petit rire. Mais bon, à la fin du coup c'est un peu chaud, les gilets jaunes envahissent le village. Il y a les gamins qui vont vers Bernardo Tapie et qui fait, Non, les enfants, attention, c'est dangereux. Et il court vers eux, et là, il se prend deux balles. Il meurt comme une merde. Et il fait, c'est pas grave, les enfants, c'est pas de votre faute. N'oubliez pas de bien vous brosser les dents.
C'est vraiment des films où je sais pas comment les gens survivent. Ils sont là, ils courent au milieu de champs de tir.
C'est la guerre, Mélissa.
Non, mais ils savent pas viser ou quoi?